Voilà, bonjour à tous. Je pense qu'on se connaît un petit peu maintenant. Je crois que la petite fille qui voulait s'en aller là tout à l'heure, elle disait ceci, parce que moi j'ai bien compris, je ne veux pas y aller. Puis elle disait, je veux écouter la prédication. Non ? Ouais. C'était ça en fait. Hein ? Elle avait soif de la parole. Dites vraiment, je le dis, hein, je pense que je vais dire ce qu'on pense tous au fond de nous-mêmes, mais moi je suis hyper impressionné par la qualité de ce qu'on vient de vivre là maintenant, d'entendre. Mais il n'y a pas eu une seule fausse note, un micro qui a été trop fort. Enfin, moi c'est une magnifique image de ce qu'est l'Église. Vraiment. Mais au-delà de la qualité, de l'excellence. On sent aussi un climat de bienveillance, de bonté. C'est tout a l'air léger. Et qu'est-ce que je rêverais d'avoir mes voisins, des amis que j'ai qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui se retrouveraient là, au milieu de nous, et qui pourraient dire, mais effectivement, ici, il y a quelque chose qui est présent. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on appartient à une tradition d'Église qui n'est pas particulièrement exubérante. Hein, voilà. Mais c'est aussi notre force, n'est-ce pas? Parce que alors notre monde, pour certains, a besoin parfois d'exubérance, mais il y en a tellement aussi qui ont besoin de cette tendresse. Parfois, cette pudeur aussi d'annoncer, dans cette façon d'annoncer l'Évangile. Et moi, je pense que l'Église, dans toute sa grande diversité, elle est là pour refléter toute la diversité de nos personnalités. Et soyons fiers d'être nous-mêmes, d'être dans une tradition, on va dire, plus posée, c'est la nôtre. Et on en est fiers aussi parce que tellement de gens ont besoin de cette tendresse, de cette douceur. Et je trouve que vraiment, on peut être fiers de ce qu'on a vécu tous ensemble. Et la chorale, comment est-ce qu'ils ont fait là en quelques jours? Moi, j'avais l'impression qu'ils avaient répété pendant 6 mois. C'était d'une beauté absolument extraordinaire. Bon, ceci étant, on va essayer de clôturer en tout cas le temps de l'enseignement. Et j'aimerais vous laisser une parole forte, j'espère de la part du Seigneur, qui va quelque part se retrouver en filigrane de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant au travers de Thierry, de Pierre, de Philippe aussi. Et ce ne sera pas celle que vous lisez là maintenant, même si c'était le titre. Mais elle est en filigrane, en filigrane de cette... de ce verset que nous allons explorer. Alors voilà la citation en fait qui a été à l'origine de ma suggestion d'un jour aborder cette question du temps et de l'emploi du temps. J'étais tombé il y a 2 ans sur cette citation dans le Nouvel Obs. Je ne me rappelle plus du journaliste, hein, mais bon. En tout cas, il disait ceci, « La tâche la plus urgente dans chaque mégapole est de déterminer comment faire usage de son temps. » Et le contexte de la question, c'est justement ce monde, et Pierre en a parlé, ce monde qui est en train de changer. Pensez à la façon dont vos parents, nos grands-parents utilisaient leur temps. Et pensons ou essayons d'imaginer à quoi pourraient consacrer leur temps nos plus jeunes générations et les générations à venir encore, à moins que le Seigneur ne revienne. Sur le coup, on espère quand même qu'il ne va pas trop tarder, parce qu'on a du mal à imaginer à quoi pourrait ressembler la vie dans 100 ans. Je ne sais pas si vous avez vu ce film sur Walt Disney, Wall-E, que je trouve absolument extraordinaire. À un moment, il y a cette image de tous ces enfants, adolescents, qui se retrouvent en train d'occuper leur temps, et ils ont tous les doigts boudinés comme ça. Et ils sont sur un petit écran... ils savent quasi plus marcher et ils ont aussi de quoi boire et se nourrir là tout près à portée de main. Et en fait, parce que le monde s'était rétréci, enfin, je vais pas raconter l'histoire de Wall-E, mais enfin, c'est cette image effectivement d'un monde qui change et au bout du compte, où on pressent qu'il se virtualise de plus en plus. Hein. Vous savez qu'il y avait un écolo qui disait on va devoir être obligé à un moment ou l'autre de beaucoup moins se déplacer, hein, pour ne plus avoir à prendre l'avion et la voiture, tout ce qui est extrêmement énergivore. Et il dit, il faudra davantage vivre virtuellement. Voilà. C'est-à-dire entrer dans cette dimension de la vie virtuelle pour vivre tout ce qu'on a envie de vivre. Et je trouve que cette question, elle nous est également adressée, à nous les chrétiens, à nous les disciples de Jésus. Comment allons-nous faire usage de notre temps ? Et c'est vrai qu'on a la pression, nous aussi, dans le contexte dans lequel nous vivons, parce qu'on a aussi envie d'expérimenter la vie avec tout ce qu'elle peut offrir et tous ces moyens technologiques qui sont là pour nous permettre de démultiplier absolument les expériences de vie. Et on a envie de vivre un max de choses. Et on voit avec nos jeunes enfants, nos adolescents, les nôtres ou ceux dans nos églises, ils veulent vivre intensément. Hein, on l'a vu hier. Et alors surtout, tout ce qu'ils vivent, ils veulent le poster directement sur leur page pour pouvoir annoncer au monde entier, voilà, regarde comme ma vie est extrêmement super géniale. Et nous, comment répondre à cette question de la tâche la plus urgente ? Comment déterminer l'usage de notre temps. Alors, loin de moi, l'idée de dire qu'il ne faut pas profiter de la vie ou des bonnes choses que Dieu donne et aussi des nouvelles possibilités que les moyens offrent. Mais l'enjeu, quand même, en tout cas pour nous d'abord et ensuite pour pouvoir le faire refléter autour de nous, c'est comment ne pas passer à côté de la seule chose essentielle, cette rencontre avec le Dieu un et trine, qui seul peut nous orienter et conduire notre vie à son plein achèvement. Et la question de l'emploi du temps n'est pas anodine du tout. Et il me semble que le piège serait de croire qu'au bout, l'enjeu, c'est la bonne gestion de notre temps, la bonne organisation de notre temps. Hein. Par exemple, on se dirait, là, et on partirait avec cette idée, comment est-ce que je vais faire pour ne pas gaspiller mon temps ? Avec un bon coaching, une bonne discipline, comment augmenter ma productivité, hein, pour les choses qui me sembleraient importantes. Et d'ailleurs, il existe plein de méthodes d'optimisation du temps. Je ne pense pas que ce soit la bonne porte d'entrée, mais à un moment, ça va avoir sa place aussi. Donc, comprenez-moi bien. Ce que je veux juste relever, c'est que ce n'est pas la bonne porte d'entrée pour répondre à cette question. Parce que on peut, tout organiser du mieux qu'on peut, mais quand même se retrouver perdu dans le chronos et à la fin se retrouver à lire le livre d'Homo Sapiens. Ou la suite, Homo Deus, qui est pire encore. Parce qu'au bout, vous ne serez pas beaucoup plus avancé justement sur qu'est-ce que je fais là ? Vous savez, je m'en prends un petit peu contre ce livre, mais je le trouve extrêmement dangereux. Parce qu'on va bientôt être 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et quelqu'un qui dit au fond, ou qui le laisse sous-entendre, que peut-être les droits de l'homme, c'est une bonne idée, mais c'est un mythe. Oui, mais avec cette surpopulation qui caractérise un peu notre vie de demain, à un moment, on va se reposer la question de savoir si cette idée des droits de l'homme était vraiment une bonne idée. Est-ce que réellement 8 milliards d'êtres humains vont pouvoir participer aux qualités de soins de santé que nous avons, par exemple, ici en Europe. Est-ce que c'est viable, écologiquement parlant ? Et donc, il est en train de tisser quelque part, en creux, ce que certains courants d'extrême droite, par exemple, pourraient utiliser comme argument. Vous savez, la question des droits de l'homme, c'est une question fondamentale pour nous, les chrétiens, parce que nous le savons, elle s'inspire directement d'une vision judéo-chrétienne du monde. Nous savons que si Dieu a créé un homme et une femme en premier exemplaire, Adam et Ève, c'est parce qu'au bout du compte, quand bien même il y aurait 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, chaque homme, chaque femme a la même valeur que le premier homme. Dieu n'a pas créé les êtres humains, Dieu créa l'homme et la femme. Façon de nous rappeler que chaque être humain a la même valeur que le premier homme et la première femme. Et je pense que dans les années à venir, les décennies à venir, on devra rester centré sur cette valeur fondamentale que l'être humain, il a été créé pour être à l'image de Dieu et que la pensée de l'éternité est inscrite au fond de lui. La question de la gestion du temps n'est donc pas, me semble-t-il, la bonne porte d'entrée parce qu'on peut se retrouver, comme je le disais, enfermé dans le chronos. Vous savez, vous diriez à une personne qui souffre d'alcoolisme, par exemple, qu'elle doit apprendre à mieux gérer son temps. Et que peut-être elle devrait intégrer que ce n'est pas une bonne idée que de passer devant un magasin où l'on vendrait de l'alcool. Qu'elle doit acheter moins de bouteilles. Enfin, j'en sais rien. C'est des conseils qui, pour une personne qui souffre d'un mal comme celui-là, ce serait pas très interpellant. Le problème de la gestion du temps est beaucoup plus profond que cela. Parce que nous sommes, dans notre humanité en Adam, hein, sachant que, bien entendu, nous sommes aussi dans notre humanité en Jésus-Christ, mais on est là toujours dans une tension. Mais il y a des angoisses, des fragilités, souvent liées à des traumatismes du passé, qui génèrent des comportements compulsifs. Et qui font que ce n'est pas juste une question de bonne gestion d'eux. Il y a parfois aussi l'angoisse du vide, l'angoisse de notre identité à façonner, l'angoisse de notre finitude, l'angoisse de la solitude. On craint, en Adam, le gouffre de la mort. Alors on s'agite. La question de l'emploi du temps n'est pas anodine. C'est une question qui nous touche au plus profond. Et il me semble que, avant de poser la question de la gestion du temps, et comme je l'ai dit, c'est une question qui a aussi sa place, c'est d'une autre conception du temps que nous avons besoin de redécouvrir. Une conception du temps où Dieu reprend sa place, où il fait irruption dans notre vie pour bouleverser notre rapport au temps. Et il ne s'agit pas d'essayer de faire des efforts pour... Vous savez, le christianisme des bonnes résolutions, il résiste pas au tsunami des nouvelles technologies, avec tout leur lot de distractions. Je donne souvent cet exemple un petit peu agressif, mais qui illustre bien. Vous savez, quand on est un garçon et qu'on a 13-14 ans, ben, il y a la découverte de la sexualité. Hein, bon, pour les hommes, c'est un petit peu compliqué. Il y a comme un lion enragé au fond d'entre nous, au fond de soi. Bon. Imaginez qu'on dise à un ado de 14 ans, voilà, imaginez qu'il ait en dessous de son oreiller une pile de revues pas très catholiques ou protestantes, et qu'on lui dise... Tu ne retournes pas ton oreiller et tu ne vas pas consulter ces revues. Est-ce que vous pensez qu'il en sera réellement capable ? Ben, il faut se dire qu'avec les smartphones, les outils, les tablettes, c'est exactement ce à quoi nos adolescents sont confrontés aujourd'hui. Ils ont accès comme ça, tout de suite, immédiatement, à l'heure qu'ils souhaitent, à ce qu'il y a de pire sur la Terre. Qu'on ne peut même pas essayer de nommer, tellement ça nous glacerait un petit peu. Le christianisme des bonnes résolutions ne peut pas faire face à ce tsunami. Il y a une nouvelle perspective qui doit être intégrée, un nouveau rapport au temps. C'est ce qu'on va explorer avec cette expression, racheter le temps, qu'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, et on va essayer d'un petit peu rester plutôt ce matin dans le texte que Paul nous laisse. Et lisons le contexte de ce passage. Alors, on est dans le chapitre 5. Durant les trois premiers chapitres, Paul a établi les fondations, et on va y revenir un peu plus loin. Et puis, les chapitres 4, 5, 6, c'est vraiment les applications pratiques. Et là, Paul, il encourage, il exhorte, il utilise beaucoup de termes à l'impératif. « Veillez donc, notamment, dit-il, avec soin à la façon dont vous, hein, les disciples de Jésus, vous vous comportez, que ce soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence. » Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit Saint. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez grâce toujours pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Soumettez-vous les uns aux autres, dans la crainte du Christ. Et puis Paul poursuit, nous y reviendrons. Voilà qu'au milieu de tous ces impératifs, il y a cette petite phrase qui nous a été proposée de méditer, racheter le temps. Alors Paul avait déjà utilisé ce verbe, ou il l'utilisera plutôt après, dans l'Épître aux Colossiens, il dit également « racheter le temps ». Alors arrêtons-nous un petit peu sur l'expression elle-même. Que signifie-t-elle ? Racheter, exagorazzo. Non, ça c'est l'italien, ça. Exagorazzo. Voilà, les tonalités ne sont pas au même endroit. Alors, On retrouve à peu d'endroits le verbe dans le Nouveau Testament, hein, en Galates 3,13 notamment, où il est dit que le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors, c'est un verbe fort pour dire, en tout cas dans ce cas, dans le cas de Galates, le changement d'une alliance à l'autre. Et l'idée derrière le verbe, c'est de s'accaparer, de mettre à profit. Alors, le temps ici, le mot en grec, c'est kéros. Alors, on l'a vu hier. Alors, il faut aussi que je sois honnête avec vous. Quand on fait de l'exégèse, il faut aussi prendre en compte que ça ne se passe pas toujours dans les mots comme on voudrait que ça se passe. C'est-à-dire, si vous prenez chronos et kéros dans le Nouveau Testament, ce que je vous ai dit hier, c'est souvent le cas, mais ce n'est pas toujours le cas non plus nécessairement. Parfois, les termes sont interchangeables. C'est comme en français. Hein. Si je vous disais copain et ami, on sait qu'ami, c'est plus fort et copain, c'est... Bon, mais parfois, on peut dire c'est mon meilleur copain, voilà. C'est toute la difficulté de la langue, donc je vais quand même être honnête avec vous. J'ai essayé un petit peu de caser à 100% toute l'idée que j'avais mise hier dans mon verset, mais ça ne joue pas nécessairement, donc je préfère la jouer franco avec vous. Mais quand même, l'idée est la suivante. Le temps, ce temps, et le kéros, c'est le temps de l'œuvre de Dieu au sein de notre chronos. Et ce que Paul dit en substance, c'est « Vivez votre vie dans le kéros. Mettez votre temps au service de l'œuvre de Dieu. Mettez-le à profit de ce qui est réellement essentiel. Ne le laissez pas se perdre dans la futilité. » Voilà, moi je pense que c'est ça qu'il y a derrière l'idée de racheter le temps. « Ne le laissez pas se perdre dans la futilité. » En d'autres mots, ne vous faites pas engloutir par le chronos. Ce temps qui s'évapore et qui, au bout, ne sert pas à grand-chose. Alors, qu'on soit bien d'accord, ce que j'ai pu dire sur le chronos ne veut pas dire qu'il s'agit de mépriser le chronos. C'est pas ça du tout non plus. C'est de ne pas se laisser manger par lui, de ne pas se laisser happer. C'est de ne pas se laisser engloutir par une vie sans le Dieu un et trine, où on se retrouverait en panne de sens, toujours avec ce sentiment d'un toujours inachevé, qui nous entraînerait dans une logique de toujours plus, toujours plus vite, toujours plus fort, toujours mieux, qui déboucherait aussi sur toujours plus de contrôle, de sécurité, de confort, de meilleure gestion, d'organisation, etc., etc. Et au bout du compte, on est toujours comme une pile électrique en train d'être dans une agitation intérieure absolument phénoménale. Luc, calme-toi. Alors là, cette voix, elle est là en permanence. Luc, mais calme-toi, mais qu'est-ce que tu t'agites, mais tu cours après quoi? C'est quoi ton truc? Alors ma femme me le dit souvent directement, cache comme ça, boum, prends dans ta tronche. Et c'est très très bien aussi, mais c'est le combat dans lequel je vis en permanence. Au milieu d'une journée bien remplie d'ailleurs, je vous en donne le défi. Alors je sais, tout ce que je vous dis, c'est en théorie. Imaginez une journée bien remplie avec plein de stress et d'agitation, avec plein de trucs à penser et tout. Imaginez qu'au milieu de cette journée, vous intégriez cette urgente nécessité de pratiquer ce que j'appelle la discipline de la tranquillité. C'est-à-dire, c'est un conseil qui m'a été donné par un ami il y a quelques années. Luc, tu t'assieds à un endroit où tu ne vas pas souvent, tu laisses ton smartphone, tout ton ordinateur, même ta Bible ou un livre, sachant que pour moi, je suis quelqu'un de très cérébral, donc je peux aussi parfois m'enfermer dans le chronos en lisant la Bible, et tu t'arrêtes, 5 minutes, montre en main. Et tu entends cette voix du Seigneur qui te dit, « Luc, je suis là, n'aie pas peur, calme-toi. C'est moi qui contrôle. » C'est moi qui conduis. Luc, tu sais, fondamentalement, je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin d'aller sauver le monde. Ça, c'est mon boulot. Vous savez, il y a ce texte dans l'Évangile de Luc, hein, où vous êtes des serviteurs inutiles. Je trouve que c'est une puissante vérité. Ce que nous sommes d'abord sous le regard de Dieu, ce sont des enfants. On n'existe pas au travers de notre utilité. C'est un rappel qui peut être salvateur. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous utilise pas ou que Dieu ne nous envoie pas, bien entendu. Mais fondamentalement, notre identité profonde, on ne la trouve pas dans ce qu'on peut essayer de faire. Pouvoir s'arrêter comme ça, c'est de la haute compétition. Parce que c'est tellement plus facile quand on est un petit peu avec un trop-plein de stress, de se, je parle pour moi, hein, de se jeter sur son smartphone ou face à son ordinateur. Et je me confesse, hein, et j'ai besoin d'aller voir une connerie, un site d'actualité. Je suis un peu addict à l'actu. Mais comme Philippe Pierre, d'ailleurs, il a semblé dire aussi ça, hein, savoir ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai que c'est pas nécessairement mauvais. Mais quand on s'y jette pour, je sais pas, on cherche à compenser quelque chose, un exutoire. Ou alors, plutôt, on va manger compulsivement du chocolat. Ou on traverse la rue pour aller manger un durum. Vous avez ça en France, les durums, les kebabs, voilà. Nous, on dit durum, les kebabs, voilà. En fait, on est happé et on se retrouve dans un mode pression, décompression, exutoire, consolation. Pression, exutoire, consolation. Et quand vous êtes mari ou parent, vous finissez par fondamentalement ne plus être vraiment disponible, toujours un peu irrité au fond de vous, énervé. Je caricature. Hein. Mais c'est cette idée centrale que si vous n'êtes pas capable d'être disponible à Dieu, comme je l'ai dit, dans le contexte de cette pratique de la discipline, vous aurez du mal à être disponible pour vos relations essentielles dans votre vie. Par exemple, si vous êtes marié, votre épouse et vos enfants, si vous en avez. Je me souviens d'une dame qui me disait « Je suis incapable d'avoir une conversation profonde avec mon mari. Il est toujours ailleurs. Il a perdu son centre. » Il a perdu son centre. Si on n'est pas centré dans le kéros, on se fait happer, manger par ce temps du chronos. On finit par s'agiter. Comme on connaît cette histoire de Marthe et de Marie. Elle a choisi la bonne part. Elle est là au pied de Jésus. Et c'est vrai que l'engourdissement spirituel dans le monde qui est le nôtre nous menace sans cesse. Et c'est intéressant que dans les contextes de notre passage, il y a souvent cette idée de « réveillez-vous ». Paul le dit un petit peu avant, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. L'allusion à la boisson, plus loin, en opposition avec la vie remplie de l'Esprit Saint, fait aussi allusion à cette forme de torpeur, d'engourdissement, de divertissement qui nous happe et nous fait perdre le centre. Et Paul dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais, car il y a urgence. Et il avait dit également en Romains 13, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. Il y a une urgence à rester réveillé. Essayons de comprendre alors, dans le contexte d'Éphésiens, quelle est cette urgence. Parce qu'on pourrait croire qu'au bout du compte, l'enjeu de ce réveil, c'est le salut de ma propre vie, ou de mon projet de vie ensuite, de mon équilibre, de l'équilibre de ma famille. Alors, c'est certainement cela aussi, mais c'est beaucoup plus large. L'urgence de la question qui nous est posée. L'enjeu pour nous, l'Église, c'est de participer à la grande œuvre de Dieu qui est d'inaugurer son règne sur la terre. Voyons quelques versets plus loin dans l'Épître aux Éphésiens. L'enjeu, et je vais aller de la fin du texte vers le début. L'enjeu pour Paul, c'est de revêtir, par exemple, l'homme nouveau. Et il dit, il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs. Il s'agit d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. L'enjeu pour nous, c'est de revêtir cette nouvelle identité en Jésus-Christ et d'en libérer la puissance possible par l'Esprit-Saint. L'enjeu, c'est la construction du corps du Christ. C'est lui, dit Paul, qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ. Notre vocation, c'est au bout du compte d'être greffé à ce corps qu'est l'Église. Moi, je dois vous avouer, il y en a un qui m'a particulièrement tapé dans l'œil, tout le monde, hein, d'une façon ou d'une autre, mais c'est le batteur, là, juste au fond, qu'on ne voyait pas beaucoup. Il était concentré. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je le trouvais beau. dans ce qu'il dégageait en tant que personne, beau dans la qualité, ou je sais pas, la façon dont il jouait. Il était à sa place, il faisait son boulot. C'était pas trop fort, juste bien. Ah, ils étaient deux. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils étaient bien cachés, donc j'avais pas. Mais c'est juste pour dire, chacun prend sa place dans ce corps pour former un tout. L'enjeu, c'est l'édification d'un nouveau temple au sein de ce monde. C'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. L'Église comme nouveau temple, le corps du Christ, ce sont toutes des images pour dire que l'Église est appelée à poursuivre l'œuvre que Jésus-Christ a commencée sur la terre. La perspective de ce corps, de ce temple, c'est une bonne nouvelle pour toutes les nations. Dieu descend sur la terre et fait rayonner petit à petit de plus en plus sa gloire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'au travers de son Fils, il envoie l'Église dans le monde pour qu'elle rayonne. Et je pense à tout ce que Pierre avait dit au début avec la marionnette notamment, c'est absolument magnifique. J'ai dit quoi ? Oui, c'est la deuxième fois que je dis Pierre, je ne sais pas pourquoi j'ai intégré Pierre. Son nom de famille, c'est encore Geyser, ouais, rien à voir du tout, quoi. Gilles Geyser, pardon. L'enjeu, c'est de porter du fruit, car nous sommes son ouvrage, dit Paul. Nous avons été, nous, les disciples de Jésus, créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions. Les œuvres, c'est un mot fort pour dire notre vocation profonde d'être des prêtres, des rois, des serviteurs au service de l'ordre créé. C'est de manifester devant toutes ces personnes qui se retrouvent dans la détresse autour de nous, qui sont en soif, de manifester cette présence bienfaisante de Dieu qui s'est révélée en Jésus-Christ pour nous dire « n'aie pas peur ». J'ai fait cette belle rencontre ça a duré 2 minutes, mais le contact est passé direct avec un éducateur de ce groupe de personnes handicapées. Et je le voyais en train de s'occuper admirablement de ces personnes. Et je la trouvais magnifique, cette personne, quoi. Et alors, on discute un peu avec elle. Puis elle nous dit, mais moi, en faisant ce métier, c'est moi qui suis enrichi par toutes ces personnes. Je lui ai dit, alors on s'est un peu présenté pour dire qui on était, nous. Je lui ai dit, écoutez, ce que vous faites, c'est magnifique. Je regrette juste de ne pas avoir dit ceci. Vous savez, si Jésus était là, il vous dirait que ce que vous faites, c'est magnifique. Pour lui dire que ceux qui prennent des personnes extrêmement vulnérables, elles sont déjà en marche. Je sentais que cette personne était tout à fait ouverte d'entendre la parole. L'évangile, bon, je n'en ai pas eu l'occasion, mais c'était pour dire que c'était une belle rencontre. Ça a pas dû... Il m'a dit merci. Il a senti que... Il y avait de la générosité dans ce que je lui disais, il a dit merci. Mais c'est juste pour dire, voilà, on est là pour aussi repérer dans le monde tous ceux qui, en tout cas avec ce qu'ils sont déjà, sont sur le bon chemin. L'enjeu, c'est de porter du fruit. L'enjeu à la suite de Jésus, c'est de récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux et sur la terre. L'enjeu pour nous, l'Église, c'est le règne de Dieu qui doit s'établir sur toute la terre. Et les chrétiens ont reçu les prémices du monde à venir. Ils ont reçu, dit l'Épître aux Hébreux, les puissances du monde qui vient. Elles sont déjà données, offertes en nous. Je vous laisse cette citation, je trouve très jolie, de frère Roger. Quand inlassablement l'Église écoute, guérit, réconcilie, elle devient ce qu'elle est au plus lumineux d'elle-même, une communion d'amour, de compassion, de consolation, limpide reflet du Christ ressuscité. Dans ce contexte-là, quand l'Église prend la parole ensuite pour annoncer la parole, elle devient d'une cohérence absolument fabuleuse. Mais comment concrètement en arriver là ? Et j'aimerais, comme je le disais là tout à l'heure, que vous gardiez surtout l'essentiel, parce qu'on pourrait se dire qu'on doit essayer avec le christianisme des bonnes résolutions, d'essayer d'être capable de faire tout ce qu'on entend ici par Paul, mais... Paul va nous donner le secret d'une vie où on rachète réellement le temps. Voilà le secret. « ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le secret d'un temps racheté où on est capable d'assumer la vocation qui est la nôtre, c'est d'être au bout rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il ne s'agit pas de faire soi-même. Nous avons reçu une puissance. Nous ne sommes pas orphelins face à tous ces défis. Et je parlais du tsunami là tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut résister à un tsunami ? Un tsunami, c'est une puissance plus forte encore que ce tsunami. Et l'Évangile est une puissance, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Elle nous est donnée à nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Je dis souvent, être chrétien, c'est une nouvelle identité et une nouvelle puissance. Être chrétien, c'est une nouvelle identité dans notre union avec Jésus-Christ. Et c'est une nouvelle puissance, la possibilité de recevoir ce qui a provoqué la résurrection de Jésus-Christ. Parce que le risque, ce serait de prendre tous les encouragements de Paul, toutes les exhortations de Paul, sans tenir compte de la substance qui va les rendre possibles. L'Évangile, ce n'est pas une loi ou une nouvelle loi. En Romains 1, l'Évangile, c'est une puissance qui sauve. Le problème, ce n'est pas de boire du vin. Le problème, c'est de s'enivrer. Le problème, ce n'est pas de jouer à un jeu vidéo. Le problème, c'est de ne plus pouvoir s'en passer. Le problème, c'est l'addiction. Le problème, c'est la place que ça prend. Le problème, ce n'est pas d'apprécier un bon repas. Le problème, c'est le rapport qu'on va avoir avec la nourriture, le rapport compulsif qu'on peut avoir. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est le rapport qu'on va avoir avec l'argent. C'est de ça dont l'Évangile nous libère. Et pour que nous en soyons libérés, le secret, c'est d'accueillir l'Esprit-Saint dans son cœur. Et je l'ai dit hier, toutes nos situations de manque, nos expériences difficiles, sont déjà des occasions où justement nous pouvons marcher par la foi et se placer en creux devant le Seigneur pour accueillir l'Esprit-Saint. Le défi pour notre génération, pour la génération de nos enfants, c'est qu'il faut que nous construisions une cathédrale intérieure. Une cathédrale intérieure capable d'accueillir l'Esprit-Saint. Pour être capable justement de ne pas se laisser happer par l'agitation, toutes ces addictions, tous ces enivrements de toutes sortes. Il y a, je vais y revenir après, hop, une citation que j'aime beaucoup de la règle de Saint Benoît. Tous les matins, voilà ce qu'on dit dans les monastères ou dans les monastères chrétiens, la règle de Reuilly, la reprise chez les diaconesses. Prie et travaille pour qu'il règne, que dans ta journée, labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Mais c'est surtout cette phrase qui m'interpelle. Maintiens en tout temps le silence intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de l'esprit des béatitudes, des joies, simplicité et miséricorde. Maintiens en tout temps le silence intérieur. C'est un énorme combat pour moi personnellement que d'arriver à maintenir tout au long d'une journée ce silence intérieur, que réellement mon centre de gravité soit le Seigneur Jésus-Christ. Et ce faisant, il y ait cette disponibilité à la présence du Saint-Esprit. J'ai pris le taureau par les cornes, parce que d'autant plus avec la fonction qui est la mienne, où il faut toujours être au taquet pour pouvoir prier à tout moment, toute heure. Un pasteur, c'est son ministère, c'est la prière. Et souvent, on se retrouve dans des situations où on doit être prêt à prier. Et le danger, ce serait d'un moment prier de façon un peu fonctionnelle. Et cette discipline d'être capable de se relier à son centre le plus profond pour pouvoir libérer une vraie prière inspirée par l'Esprit-Saint. J'ai pris le taureau par les cornes. Je ne veux pas du tout me caricaturer, hein, vous donner l'image que ce qui ne serait pas vrai, mais c'est une façon aussi de dire ce que j'ai envie de dire. Avec mon épouse, on a décidé de prendre une année sabbatique. Pendant un an, on va sortir du système et on va se mettre à l'écart. Alors c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce. On va se retrouver, pour la plupart d'entre vous, dans votre beau pays en France. Mais notre défi, c'est de bâtir cette cathédrale et de la solidifier bien plus qu'elle ne l'est là pour l'instant. Se mettre à l'écart. Se mettre à l'écart pour bâtir cette cathédrale intérieure, pour pouvoir avoir cet espace en permanence dans un monde comme le nôtre, parce que le Seigneur nous y envoie dans ce monde pour proclamer, pour être les témoins du Seigneur Jésus ressuscité. Avoir vraiment cet espace où réellement, au plus profond de mon être, réellement, je marche sur l'eau. Maintiens en tout temps le silence intérieur pour y accueillir l'Esprit. Plus concrètement, Paul, dans le passage, nous donne plusieurs situations où réellement cette vie dans l'esprit se déploie. Voilà ce qu'il dit juste après. Voilà. Donc, soyez remplis du Saint-Esprit, parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu le Père. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être rempli du Saint-Esprit ? Ben, Paul le dit, c'est ben, entre vous déjà. Chantez, priez. Chantez les psaumes, chantez la parole. Derrière la question de la louange se cache la question la plus centrale de notre existence. Quel est notre centre ? Est-ce que nous avons notre centre en nous-mêmes ou est-ce que nous l'avons en Dieu ? C'est la question de l'adoration. Et Paul dit, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, ayez votre centre dans le Seigneur, devant ce Dieu un et trine qui s'est donné à nous pour nous sauver. Pour pouvoir être capable de ne pas être happé par le chronos, il faut pouvoir se centrer. Comme l'a dit hier Philippe, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui est premier dans mon existence ? À quoi est-ce que je consacre les 15 premières minutes de ma journée ? Chantez ensemble, chantez seul, dit-il en substance, de tout votre cœur, de tout votre cœur. Soyez reconnaissant. Alors, ce n'est pas du positivisme, c'est un rapport profond à Dieu. C'est voir le monde dans lequel nous vivons avec les yeux du kéros. C'est voir Dieu à l'œuvre au-delà de toutes les nuits du monde. Je pense à ce chant « Béni soit ton nom » en toutes circonstances. Et Paul continue en disant « Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Christ. » Sous-entendu, sortez du monde des fausses gloires, des faux moi, des fausses identités et endossez votre vrai moi en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas, vous les uns les autres, dans la compétition où l'un essaierait de s'élever au-dessus des autres. Non, et il le dit au début de ce chapitre 5, « Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » Soumettez-vous les uns aux autres. Ça, c'est la marque de fabrique de la communauté chrétienne. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et aimez-vous sans hypocrisie. Ça, c'est répété tout au long de toutes les épîtres. Aimez-vous sans hypocrisie. Pourquoi ? Parce qu'on rajoute. Parce que c'est toujours le risque. Le danger, c'est d'en faire toujours un petit peu trop quand on veut aimer. Soyez d'abord centrés. Vous allez voir que l'amour va jaillir de lui-même. Et puis, dans la suite du passage, c'est intéressant. Paul prend plusieurs exemples de situations de vie. Dans votre famille, mari, aimez vos femmes. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Là, on se demande ce que je vais dire juste maintenant. Hein. Parce que Ce que j'entends derrière le terme de la soumission, qui est un verbe qui n'est plus beaucoup conjugué aujourd'hui, en tout cas en Occident, je crois que derrière l'idée de la soumission, il y a l'idée de se faire profondément confiance. Femme, apprenez à faire confiance à votre mari. Et Marie, apprenez à faire confiance à vos épouses. Marie, aimez vos épouses. C'est l'idée de s'aimer les uns les autres dans un climat, non pas de pouvoir ou de contrôle, mais de confiance ou de volonté de vouloir faire confiance toujours un peu plus. Et puis, Paul va encore plus loin. Et vous, les esclaves, même si vous êtes dans une situation un petit peu particulière, soumettez-vous à vos maîtres. Mais dans la crainte du Christ, précise-t-il. Regardez, esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme au Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais comme des esclaves du Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Ça me fait penser à cet épisode où Jésus se retrouve face à Pilate. Pilate qui, du haut de son arrogance et de son piédestal, dit à Jésus, « Tu sais que j'ai le pouvoir de te crucifier. » Qu'est-ce que Jésus lui répond ? « Tu n'as aucun pouvoir sur moi. » Tu n'as aucun pouvoir. Il parle très peu Jésus durant ce procès. Mais Jésus est centré sur son Père dans cette alliance. Il a le contexte, il sait ce qui est en train de se passer. Il sait que tout est entre les mains du Père, il est centré. Il n'a peur de rien. C'est difficile, hein, c'est de la haute compète, comme je disais. Hein, il s'agit d'apprendre à marcher sur l'eau. Je suis rempli de peur de toutes sortes. Mais je dis, Seigneur, j'ai envie d'apprendre à ne plus avoir peur et je sais que c'est un chemin. Et je sais que plus cette cathédrale intérieure va grandir, prendre de la place, et plus je deviendrai libre. Plus je serai centré sur le Christ, plus je serai rempli du Saint-Esprit. J'arrive à la conclusion. Voilà, c'est une image que je vous laisse. Devenons comme des arbres plantés près d'un cours d'eau, qui portent du fruit en sa saison. Ce que j'aime avec l'image de l'arbre, c'est que l'arbre ne se nourrit pas de ses propres fruits. Il y en a plusieurs parmi vous, et je vous en remercie, qui m'ont encouragé en me disant que que ça va apprécier mon intervention d'hier. Vous savez, c'est dangereux pour un pasteur d'entendre parfois certaines choses, parce que c'est grisant. Mais le piège, ce serait de s'endormir avec ça. L'arbre ne se nourrit pas de ses fruits. Les fruits viennent en leur temps, et c'est l'expression de la vie qui coule en lui. Et Dieu a donné à l'un différents dons, et chacun prend sa place. Ce qui compte, par contre, pour nous tous, c'est d'être enracinés au même endroit. Racheter le temps. Alors, bien entendu, à un moment, il faudra poser la question de l'emploi du temps, mais ne perdez jamais de vue que vous ne pourrez racheter le temps que si vous êtes d'abord bien centré, rempli du Saint-Esprit. Et vous verrez, vous ne serez plus happé compulsivement par tout ce que vous voulez stopper dans votre vie. Prenez d'abord le temps de vous arrêter, de vous replacer devant le Seigneur. Cette discipline de la tranquillité. Chaque jour, 5 minutes à plusieurs moments dans la journée, on se recentre. Prenez à libérer tous les cantiques que vous connaissez, à les fredonner, toujours pour être centré. Plus vous serez centré, moins vous serez happé dans l'agitation du chronos. Et plus, quand il s'agira de manger un bon repas, de participer à une super activité, vous pourrez dire, Seigneur, merci pour cette occasion que tu me donnes. Vous savez, on est libre. Le chrétien Paul dit, tout est permis, mais ne vous laissez asservir par rien. Voilà ce qui, pour moi, fondamentalement signifie de marcher sur l'eau. Je propose qu'on prenne quelques secondes de silence. Et il y a un chant que j'ai proposé qu'on va jouer, je pense, d'abord. Avant que vous ne commenciez, je vais juste faire une courte prière, comme ça je vais aller m'installer après. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te rends grâce, nous te rendons grâce pour ce magnifique temps passé ensemble. Nous te rendons grâce pour chaque personne présente durant cette convention. Et nous te prions pour que ta parole pénètre dans nos cœurs profondément. Tout ce qui a été semé à travers des différentes interventions puisse germer au fond de notre cœur. Que ton Esprit Saint, durant les heures qui passent, puisse secrètement continuer à travailler et à faire germer ce que tu as déposé en nous. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas orphelins face à tous les défis, face à la vocation que tu nous adresses. Face à toutes ces exhortations fondamentales pour nos vies, tu ne nous laisses pas orphelins. Tu désires être présent au cœur de nos vies par ton Esprit Saint. Alors Seigneur, nous te le demandons, nous voulons t'ouvrir grand notre cœur et que tu puisses nous remplir de ton esprit, que cette puissance puisse résister à tous les tsunamis autour de nous, Seigneur. Accorde-nous des temps privilégiés où nous pouvons être à l'écart. Nous pouvons prendre le temps de bâtir cette cathédrale et poser à notre cœur ce calme et ce silence dont il a tellement besoin pour que tu puisses prendre toute la place. Seigneur, sois béni pour la grâce qui nous accompagne sur ce chemin de vie. Nous savons qu'il n'y a plus d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête, puisque nous savons qu'en toi il n'y a plus de condamnation. Nous sommes libérés de cette épée de Damoclès. Nous pouvons marcher par la grâce, mais Seigneur, nous voulons aller au bout de l'appel que tu nous adresses. Sois béni, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.